Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu pour la prédication. Nous trouvons cette lecture dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 9, les versets 28 à 36, à la gloire du Seigneur. Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. À la gloire du ressuscité. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, frères et sœurs, bénir et sanctifier la lecture de sa parole. Amen. Dans ce sujet que je traite depuis quelques dimanches déjà, qui s'intitule « La réalité de la gloire de Dieu », frères et sœurs, j'ai déjà regardé quelques titres avec vous. Un de ces titres, c'est Jésus sait ce qu'il fera, ou alors Dieu sait ce qu'il fera. Aujourd'hui, nous allons regarder ce même sujet, à savoir la réalité de la gloire de Dieu, mais nous allons regarder un autre titre qui s'intitule de la façon suivante, Témoin de la gloire de Jésus. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Témoin de la gloire de Jésus. Le texte est en train de nous montrer quelque chose qui est destiné à faire suite à ce que Jésus a déjà commencé à faire, c'est-à-dire démontrer sa gloire. Nous avons vu quelques occasions où le Fils de l'homme eut à démontrer sa gloire pour la bénédiction de ses disciples, et de tous ceux qui le suivaient, qui étaient là autour de lui. J'ai expliqué à travers quelques messages, dont le message qui a été prêché sur le miracle que Jésus a opéré à Cana en Galilée. Et l'apôtre Jean précise clairement que ce miracle s'inscrit dans un cadre, dans un registre particulier, c'est-à-dire le registre, le cadre de la démonstration de la gloire de Dieu. Après, nous avons regardé d'autres événements subséquents au cours desquels le Fils de Dieu a eu à faire la démonstration de sa gloire lorsque, par exemple, auprès de la piscine de Bethesda, il a guéri cet homme qui était malade depuis déjà 38 ans. Et je vous avais montré, expliqué que la démarche, eh bien, constituait à témoigner de la gloire de Dieu par le Fils de Dieu lui-même. Par la suite, Jean chapitre 11 nous montre que la résurrection de Lazare, eh bien, s'inscrivait également dans cette démarche de rendre évidente, ne serait-ce qu'une parcelle de la gloire de Dieu au profit de ceux qui suivaient Jésus. Et finalement, frères et sœurs, l'autre jour, je vous ai entretenu sur la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous pouvons comprendre que dès avant son ministère, le Fils de Dieu participait à cette démonstration de la gloire de Dieu lorsque Dieu a conduit Ézéchiel dans cette vallée d'ossements desséchés pour lui montrer ensuite sa gloire. Eh bien, ça n'arrête pas, ça continue. Le Fils de Dieu comprend qu'il est toujours nécessaire pour lui, eh bien, de démontrer qu'il est un être glorieux. Il va le faire ici. Il prend ses disciples, quelques-uns de ses disciples, pour prier. Ils se sont retirés un moment pour prier. Et le texte nous dit « pendant qu'il priait ». Pendant qu'il priait, la gloire de Dieu a descendu, frères et sœurs. L'aspect de son visage. Je vous dis, si vous voulez négliger la prière, c'est vous. Mais la prière n'est pas à négliger dans la vie chrétienne, frères et sœurs. On a vu ça à plusieurs reprises. Pendant seulement qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Verset 29, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ce texte, frères et sœurs, est rapporté dans l'évangile selon saint Matthieu, il est rapporté dans l'évangile selon saint Marc. Et quand moi je faisais la lecture en parallèle de ces trois comptes rendus, celui de Marc, celui de Matthieu, celui de Saint-Luc, dans mon tableau synoptique, je me suis rendu compte que Matthieu rajoute un détail sur lequel Luc ne s'est pas attardé. Dans Matthieu 17, le verset 2, Matthieu dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. » Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Dans Actes chapitre 9, le verset 3 a continué. Saint Paul décrit sa rencontre. Il fait un compte rendu, un reportage de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Lui aussi a parlé de luminosité. Il a parlé de lumière. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Le texte dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Avez-vous remarqué que la gloire de Dieu s'associe toujours avec la luminosité, frères et sœurs? Jamais, de situation où la gloire de Dieu se manifeste, qu'on ne voit pas la lumière de Dieu. Dans Ézéchiel 1er, le verset 28, quand Ézéchiel a reçu son appel au Saint-Ministère, Dieu lui a fait la grâce de faire l'expérience de sa gloire dans une vision. Et Ézéchiel, lui aussi, a parlé de feu. Il a dit, j'ai vu comme une figure d'homme placée sur un trône dont les reins étaient couverts de feu, frères et sœurs. Vous vous rappelez? Ézéchiel 1er, le verset 28. Et d'une lumière éclatante. Et il dit que c'était une image. Il explique sa vision, hein, en tout cas ce pan de la vision, cet aspect de la vision, en disant que c'était une image de la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple de lumière, frères et sœurs. Nous sommes un peuple de lumière. Ah, et Saint Jean a eu à faire la même expérience. Dans Apocalypse 1er, verset 16 à 17, Jean parlait du Fils de Dieu, de Jésus de Nazareth, lorsqu'il dit à l'île de Patmos, il avait, en parlant de Jésus le ressuscité, il avait dans sa main droite sept étoiles, ce qui suppose la luminosité encore, frères et sœurs. Son visage était comme le soleil. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point. J'aimerais que vous réalisiez que quand Moïse a fait l'expérience de la gloire de Dieu, Moïse était terrassé. Il ne pouvait pas se tenir debout. Le peuple d'Israël lui-même ne pouvait pas regarder Moïse. Imaginez comment à chaque fois que Dieu manifeste sa gloire, c'est arrivé à Ézéchiel, l'humanité ne résiste pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu habite en nous, frères et sœurs. Je comprends pourquoi Saint Jean, dans Apocalypse 21, verset 33, lorsqu'il parle de la nouvelle Jérusalem, de la ville sainte, il dit « La ville n'a pas besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. » Côté moi, là où vous et moi, nous nous en irons, ensemble, dans la présence éternelle de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Et vous, si déjà nous pouvons commencer à rendre gloire à Dieu, à témoigner de la lumière de Dieu, c'est la meilleure chose que nous pouvons faire, frères et sœurs. Nous sommes un peuple de lumière. Et pourquoi la nouvelle Jérusalem, pourquoi la ville sainte n'a-t-elle pas besoin de soleil ni de lumière pour l'éclairer l'oratoire? Le Saint-Esprit le dit, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau, Jésus de Nazareth, est son flambeau. Oh mon Dieu. Quand je lisais ce texte, frères et sœurs, j'étais très, très, très content de regarder et de contempler ma destinée en Dieu, frères et sœurs. Une destinée de lumière. Une destinée de gloire. Et c'est là nous pour aller. Ah, et Matthieu ajoutait, ses vêtements de vin blanc comme la lumière. Et puis, tandis que la gloire resplendissante du Fils de Dieu brillait, frères et sœurs, eh bien, le texte nous dit au verset 30 à 31, « Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. » Et le Saint-Esprit de nous dire qui? Il aurait pu ne pas le faire. Mais ici, il a décidé de nous dire qui? Il dit, c'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors, Matthieu nous dit qu'il s'entretenait avec Jésus. Marc nous dit qu'il s'entretenait avec Jésus. Mais Luc décide de nous dire de quoi il s'entretenait. Il dit qu'il s'entretenait du prochain départ du Fils de Dieu à Jérusalem. Départ à Jérusalem signifie départ pour aller mourir. Est-ce que l'Église est là? Autrement dit, d'après ce reportage, ce compte-rendu divin, le Fils de Dieu n'était pas la seule personne qui était présente ce jour-là quand le royaume de Dieu se manifesta. Moïse et Élie était là, apparaissant dans la gloire, c'est-à-dire dans la splendeur de leur corps glorifié. Des fois, il y a des bien-aimés de cette église, d'autres endroits où j'ai déjà eu à exercer le Saint-Ministère, qui me disent, pasteur, quand on va être dans le ciel, comment on sera? Ce texte est prescriptif, mais il semble donner une idée de comment on sera. Parce que Élie et Moïse étaient reconnaissables. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Probablement, nous serons connaissables. Probablement. Et alors, frères et sœurs, ces deux hommes étaient là. Est-ce que Jean, Jacques, les ont reconnus par eux-mêmes? Je ne crois pas. Le texte ne nous dit pas de quelle manière ils ont su que c'était Moïse et Élie. Est-ce que le Fils de Dieu leur a présenté ces deux hommes de Dieu? Ou est-ce que ces deux hommes-là se sont présentés eux-mêmes? Ou quelle autre manière le Saint-Esprit, le Dieu trois fois saint, a-t-il utilisé pour faire savoir à ces trois hommes de Dieu que ces deux-là, c'est Moïse et Élie? Nous ne savons pas. Mais ce qu'on sait, c'est que ces hommes étaient là et ils apparaissaient dans la gloire de Dieu. Autant vous rappeler qu'un jour viendra où vous serez dans la gloire de Dieu. Vous serez revêtus de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Un jour viendra où vous serez dans la gloire de Dieu. Dans le ciel, ce sera un état parfait et permanent de gloire. La gloire de Dieu a déjà commencé à vous habiter. Vous êtes sanctifiés, dit Saint Paul, dit toutes les Écritures. Vous êtes sanctifiés. Votre sanctification, savez-vous quoi? Les gens qui ne comprennent pas bien la théologie, les choses de Dieu, ils ont tendance à faire une séparation. Une séparation, je dirais entre guillemets, brutale entre la sanctification et la glorification. Mais il n'y a pas un rapport de séparation. La sanctification, en quelque sorte, c'est une étape de la glorification. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? La sanctification du croyant, c'est sa glorification commencée ou initiée. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Tandis que sa glorification, c'est sa sanctification achevée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Pourquoi Moïse et Élie, cela dit? Le texte ne le dit pas. Mais je suis d'accord avec ceux qui croient que c'est Moïse et Élie. Parce que Moïse et Élie, ce sont deux représentants authentiques du peuple d'Israël. Dans les deux chapitres de l'Ancien Testament, de la relation de Dieu avec son peuple, on comprend que la loi de Moïse jouait un grand rôle. Et le Fils de Dieu il s'apprête à aller à Jérusalem pour mourir selon la loi. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Moïse est tellement associé à la loi que quand on parle de la loi, vous savez ça très bien, on parle de la loi de Moïse. C'est une hypothèse. C'est un modèle d'explication de la présence de Moïse ici. Élie, c'est à peu près la même chose. Tandis que Moïse a donné la loi. C'est la loi de Moïse qu'il a reçue de Dieu du Sinaï. Tandis que c'est lui qui est le fondateur de la nation, dans la mesure où c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte. Élie, quant à lui, frères et sœurs, représente l'autre aspect très important dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes. Élie est là comme le représentant des prophètes. Il y a deux grandes composantes, deux grands pans dans l'Ancien Testament, que ce soit dans la relation de Dieu avec son peuple, que ce soit dans la révélation de Dieu, il y a deux grands pans. Et Élie n'est pas là juste parce que c'était un prophète. Élie est là, je vous résume les hypothèses d'explication sensées, Élie est là parce que Élie est l'un de ces prophètes fidèles, de ces hommes fidèles. qui ont tenu tête à Israël, le peuple de Dieu, l'Église de l'époque, quand ils s'évadaient de la gloire de Dieu, quand ils rejetaient les ordonnances, les commandements, la loi de Dieu. Et la résistance d'Élie à ce peuple, quand il résistait à la gloire de Dieu dans sa parole, a contribué, entre autres, par la faveur divine, a fait que Élie est l'homme que nous connaissons aujourd'hui, celui qui a tenu tête à Baal. Vous vous rappelez, frères et sœurs, celui qui a tenu tête à Akab. Alors, ça explique pourquoi ce sont ces deux hommes. Cela ne veut pas dire que David n'est pas important. Cela ne veut pas dire que Salomon, malgré ses errements, ses erreurs, n'est pas important. Mais on comprend que Élie et Moïse avaient une importance toute spéciale dans cette manifestation, dans cette démonstration, et bien de la gloire de Dieu. Cela dit, regardons les versets 32 à 33, frères et sœurs. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Ils sont accablés. Nous aurons besoin de ce mot tout à l'heure. Ils sont accablés. La vie n'a pas douce pour eux. Ils ne sont pas dans la joie, ils sont dans la tristesse, ils sont dans le chagrin. J'ai un ami comme ça. Il y a des gens, quand ils vivent des temps difficiles, ils n'ont pas le sommeil. Et il y en a d'autres, c'est quand ils vivent des temps difficiles qu'ils ont le sommeil. Depuis qu'il y a un problème, ils dorment toute journée. Ça dépend de chaque personne. Monsieur Sayo a dormi, très probablement. La fois passée, je vous avais signalé qu'ils dormaient parce qu'ils étaient fatigués. Cette fois-ci, très probablement, parce qu'ils sont accablés au bout, au plus haut point. Ils sont accablés parce que le Fils de Dieu va aller à la croix. Ils le savent. Mais qu'à cela ne tienne, ils virent la gloire de Dieu parce qu'ils se sont éveillés. Ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. S'ils dormaient, pasteur ou bien Sergo, comment ça se fait-il qu'ils aient pu voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus et les deux hommes? Mais ça nous arrive, vous et moi aussi, quand nous dormons, quand il y a quelque chose, une situation quelconque, qui fait que nous réveillons un tout petit peu. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Puis on peut voir ce qui se passe. Et au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, dit le texte, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Le Seigneur Jésus nous dit quelque chose qui est lourd de sens. Quand il dit, il le savait ce qu'il disait. Un peu comme toujours. Cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, mais il est impulsif. Vous vous rappelez, frères et sœurs? Il le savait ce qu'il disait. Il ne comprenait rien dans rien. C'est ça que ça veut dire, oui? C'est ça que ça veut dire. Il ne comprend rien dans rien. Il veut anticiper l'instauration du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il ne comprend pas les choses de Dieu. Le Fils de Dieu va dire plus tard que mon royaume n'est pas de ce monde. Probablement, il avait l'occasion de le dire aux disciples également. Ou alors, même s'il ne le dit pas textuellement comme il va le dire devant Pilate. Mais il montre que son royaume n'est pas de ce monde. Mais ces hommes qui étaient avec lui ne pouvaient pas comprendre. C'était difficile pour eux de comprendre. Voilà que Pierre est dans une situation que Dieu appelle à être passagère. Il veut éterniser la situation, il veut la rendre éternelle. Ça me fait penser, frères et sœurs, que n'eût été la grâce de Dieu, on ne peut pas compter combien d'erreurs vous et moi nous ferions sur le chemin de la vie, frères et sœurs. Parce que parfois, même avec de bonnes intentions, nous pouvons dire des choses ou faire des choses qui ne cadrent pas avec le plan de Dieu pour nous, frères et sœurs. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais malgré son attachement au Seigneur, malgré que cela va faire bientôt 3 ans qu'il est avec le Seigneur, il ne l'a pas compris. Il veut anticiper l'instauration du royaume. N'a pas tout été non là, Seigneur. Si le Seigneur avait accédé à la proposition de Saint-Pierre, nous n'aurions pas le salut, non, hein? Vous n'avez pas compris cela? Nous n'aurions pas connu la vie éternelle. Ça s'arrêterait là, sur la montagne. Cette fois-ci, le Seigneur ne l'a pas rabroué. Non, il ne l'a pas réprimandé sévèrement. Il n'a pas fait ça cette fois-ci. Il note Le Saint-Esprit note qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'est lui qui avait dit, vous vous rappelez, à Dieu ne plaît, Seigneur, tu ne mourras pas. Satan est toujours présent. Regardez côté Satan vient présent, frères et sœurs. Nous, tête en montagne comme ça. La gloire de Dieu est en train de se manifester et Satan est là. Avez-vous remarqué? Il est là pour détourner le plan de Dieu. Il est là pour faire à Pierre penser crochu. Cette pensée n'est pas de Pierre. Cette pensée est charnelle. Elle n'est pas divine, cette histoire de « on va tout retirer nous là ». Ce n'est pas le plan de Dieu. Et laissez-moi vous dire, c'est pas sur ça que je veux prêcher. Mais il y a des fois, il y a des attaques où est on moun fort. C'est pas moun nan non pour elle. C'est Satan pour elle, frères et sœurs. Où est Sego? Bah, les nommés moun nan l'église là. Mais en même temps, je veux rendre vivant ma prédication. Où est Mikerta? Où est Adorno? Où est Aldin? Et puis, s'entendez là. Mais c'est pas Aldin qui te répond nous mal là. C'est pas Aldin qui pas voulu demander pardon. Hein. C'est pas Aldin qui pas voulu pardonner à lui-même tout. C'est pas Aldin qui est fort, bagaille là. Surtout sous fidèle à bon Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Cette pensée n'est pas de Pierre. Elle est diabolique. Elle est satanique. Pourquoi? Pasteur, parce que elle est contraire au plan divin. Elle est contraire au dessein de Dieu. Qui va toujours à contre-courant du dessein de Dieu? C'est l'adversaire. Parce qu'il s'appelle adversaire. Est-ce que l'Église a là, frères et sœurs? Fermons la parenthèse. Alors pourquoi? C'est important. Eh bien, à quoi ça sert ce que j'ai dit là? Ce que j'ai dit là sert à nous rappeler l'importance de ce que lui-même Pierre va dire plus tard. Veillez, car votre ennemi, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Il est passé par là, il sait de quoi il parle. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Donc je vous dis ça pour vous dire de ne pas arrêter de veiller. Verset 34 à 36, j'achève et l'exégèse du texte. Comme il parlait ainsi, frères et sœurs, 34 à 36. Une nuée vint les couvrir. Vous savez ce que ça veut dire? Ils vont voir une double démonstration de la gloire de Dieu. Ils vont voir la gloire du Fils qui est inhérente au Fils, qui part du Fils, contrairement à Moïse, qui a reçu sa gloire de Dieu. Sa gloire venait de l'extérieur à lui-même. Le Fils, sa gloire vient de lui. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il est glorieux. Il est égal à Dieu le Père en essence, en gloire, en tout. Tandis que les deux hommes de Dieu, Élisée, Élie et Moïse, vont recevoir la gloire de Dieu. Et Dieu lui-même, bien que sachant que son Fils est tout aussi glorieux que lui, il va le couvrir de sa gloire par anticipation de la gloire dont il va le couvrir. À la mort, à la résurrection, à l'ascension et à son règne. Est-ce que l'Église a la frères et sœurs? Il amorce cette gloire. Parce que le Fils a bien dit, plus tard, il va dire, glorifie ton Fils comme il t'a glorifié toi-même. Et il amorce la glorification de son Fils en venant les couvrir. Remarquez bien, les saints hommes de Dieu qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas été couverts par cette nuée. C'est les deux représentants de l'Ancien Testament et le Fils de Dieu qui sont couverts par cette gloire à travers la nuée, comme cela se faisait un peu la Shekinah de Dieu. Je vous expliquais des choses de ce genre. Et les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. La gloire de Jésus, sa gloire inhérente à lui, est manifestée. La gloire du Père est manifestée lorsque dans une nuée, il a fait son apparition, il a couvert sa gloire dans une nuée et la gloire parole retentit, il authentifie son Fils, il accrédite son Fils, il l'a déjà accrédité à son baptême avec les mêmes paroles ou presque. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Il accrédite son Fils, il amorce sa glorification. Et la scène est terminée, frères et sœurs. La scène est terminée. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pasteur? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, pasteur? Comment on applique ça à la vie chrétienne, ce texte? Tout cet envolé oratoire, toutes ces explications, ce texte apparemment insignifiant. Comment on applique ça à la vie chrétienne, à ma marche chrétienne, à ma vie ministérielle? Comment j'applique ça? À quoi ça sert? En quoi ça me concerne? Je commencerai par vous dire ceci, l'oratoire. Sinon, ça reste de la théologie. Comment on applique ça à la vie chrétienne? Aucune église, aucun groupe ne peut comprendre ce qu'il faut faire avec ce passage, c'est-à-dire comment l'appliquer, si on ne sait pas pourquoi cette démonstration a-t-elle eu lieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Tout étudiant de la Bible, tout prédicateur qui se respecte, comprend que pour savoir que faire de ce texte dans la vie chrétienne, il faut savoir pourquoi Jésus a fait ça comme ça. Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi? Ça part de là. Pourquoi il a fait cette manifestation spectaculaire de sa gloire? Il a pris 3 hommes avec lui. Il est conforme à l'Ancien Testament parce que quand ces hommes-là vont en parler, ça prend 3 personnes pour accréditer le témoignage. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Pourquoi cette démonstration d'envergure phénoménale, frères et sœurs? Pierre, Jacques et Jean ont été terrassés. Pourquoi? Toute cette manifestation de gloire, de force, de poids. Pourquoi? Pourquoi? Pour une raison bien simple. Et c'est de là que vient l'application pour toi et moi. La signification du texte pour toi et moi. Pour une raison bien simple. Ceux qui ont lu les versets précédents ont peut-être déjà remarqué que Jésus vient d'annoncer sa mort, ses souffrances. Avez-vous remarqué cela? Vous voulez qu'on regarde ça vite, vite? Regarde ça ensemble, voilà la raison. Voilà la raison. On peut commencer avec le verset 21 si on veut là. Verset 21, voilà la raison. Jésus vient d'annoncer sa souffrance, sa mort, son rejet par les anciens d'Israël, par les chefs juifs. Verset 21, on est là l'église? Et Jésus le recommande assez sévèrement de ne le dire à personne, qu'il est le Fils de Dieu. Il vient d'annoncer qu'il est le Fils de Dieu aussi. C'est important aussi, ça fait partie de la raison. Et il ajoute au verset 22 qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup. Raison est là. La raison est là. Pourquoi il donne cette transformation, cette manifestation de gloire? Qu'il fut rejeté par les anciens d'Israël, par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. C'est pour ça, Libaili. Mais c'est pas suffisant, pasteur. Quoi le rapport? Mais le rapport, c'est que les disciples sont dans la confusion. Êtes-vous là? Jésus manifesta sa gloire parce que ses disciples sont dans la confusion. Ils sont dans la peine. Ils sont dans la tristesse. Est-ce que l'Église l'a là? C'est pour ça que Jésus fait démonstration ça. Parce que ces gens-là entendent parler à la fois de Fils de Dieu, de divinité, ils t'entendent parler de la mort. C'est pas croyable, c'est pas clair. Il y a un problème. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Voyez-vous avec quel Dieu nous marchons? Voyez-vous quel Dieu nous servons? Il se plaît toujours à nous former pour sa gloire. Amen, amen. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Tes chutes servent à ta formation. Amen. Tes problèmes, tes épreuves, tes souffrances servent à ta formation. Amen. Jésus n'accepte pas de partir sans affermir la foi de ses disciples. En tant que Dieu, il sait pertinemment qu'ils sont dans la tristesse, dans la douleur. Et il prend les moyens de leur dire, écoutez bien, ce que je vous dis là est possible car je suis Dieu. Est-ce que non, la frères et sœurs? C'est ce qu'il est en train de faire là. Aha. Il est en train de leur démontrer, de donner une démonstration supplémentaire de sa divinité pour les réconforter, pour accréditer ses thèses, ses propositions, ses explications, ses déclarations, ses affirmations, incluant toutes celles-là qu'il a faites au sujet de sa mort. Voilà la raison de la transfiguration. Est-ce que l'Église a là? Mais malgré cela, pasteur, ça me concerne toujours pas. Vous dites cela vraiment? Malgré cela, ça me concerne toujours pas. Je sais que Jésus est déjà mort. Eux, ils ont reçu la nouvelle. Il est mort par la suite. Mais moi, c'est déjà réglé. Eh bien, voilà la réalité. Pour nous, c'est la même chose. Jésus n'est pas en train de se préparer à mourir. Il est déjà mort. Est-ce qu'on est là? Il est déjà ressuscité. Il vit. Il est déjà dans la gloire. Est-ce qu'on est là? Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons transporter cette expérience à notre vie personnelle. Nos souffrances, nos épreuves, nos tracas ne signifient pas que Jésus nous abandonne. Est-ce que l'Église est là? Je fais exactement ce que Jésus a fait. Je n'invente rien. Je suis sur les traces de mon Dieu. C'est comme ça qu'il a enseigné son peuple. En lisant ce texte, l'oratoire doit se rappeler que Jésus est vivant, que Jésus est Dieu, que Jésus est plein de gloire et que Jésus est capable de faire tout ce qu'il promet, tout ce qu'il dit qu'il fera un jour. Alors, ramasse courage au peuple de Dieu, ramasse ton courage. Attache ta ceinture, car le Jésus que tu as confessé, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il est celui que tu avais confessé. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Ça veut dire quoi par rapport au texte, Sergo ou pasteur? Ça veut dire, malgré les ennuis, malgré les persécutions, malgré la maladie, malgré la mort, malgré toute qualité problème qui gagnait, continuez de donner gloire à Jésus. C'est ce que Jésus voulait faire dans sa démarche. C'était ça la pertinence de la manifestation glorieuse de sa gloire sur cette montagne, frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus puis fort, même l'on ne comprend rien. Est-ce que l'Église est là? C'est ce que Jésus voulait dire à ces gens-là. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de passer à côté de cela comme prédicateur. Qu'est-ce que Jésus puis fort. Peu importe, tu comprends, tiens Jésus. Tu ne comprends pas, tiens Jésus. Tu es déçu, tiens Jésus. Tu es trahi, tiens Jésus. Tu es persécuté, tiens Jésus. Tu n'as pas d'argent, tiens Jésus. Ta blonde te laisse, tiens Jésus. Ton blond te laisse, tiens Jésus. L'église a manqué monde, tiens Jésus. Moun ta de avini, tiens Jésus. Est-ce que l'église a compris? Parce que Jésus, c'est Dieu. Et en faisant cela, vous glorifiez Jésus. C'est en faisant cela que vous glorifiez Jésus, en le tenant en tout temps, dans la peine et dans la joie, quand ça marche et quand ça ne marche pas. Je ne les détaillerai pas, mais je vous les donne en rafale. Concrètement, voici de quelle manière tu peux rendre gloire à Jésus. Je ne les détaillerai pas, en comptant sur sa présence. Aha. Maintenant, à la lumière de ce texte et d'autres textes de l'Écriture, et à la lumière de tes expériences avec lui, maintenant que tu sais qu'il est Dieu, tu n'as pas à douter de sa présence. Il peut mourir et vivre, il peut être en haut et vit en toi spirituellement parlant. Est-ce qu'on est là? Je ne détaillerai pas cela. Une deuxième manière de continuer à le rendre gloire, c'est en comptant sur ses promesses. Est-ce que l'Église est là? Que votre cœur, quand il nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il faut que tu le fasses. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il faut que tu le fasses. Voici, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et après, seulement, je reviendrai vous chercher. Pierre ne pouvait pas comprendre, il fallait que le Fils de Dieu parte afin qu'il puisse préparer son avenir éternel. Il n'avait pas compris cela. Toi, ne vous laissez pas prendre à ce piège. Troisièmement, en étant loyal envers lui. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est pas toujours facile d'être loyal envers son Dieu dans les temps difficiles. Mais on sait que c'est possible. Pas vrai, frères et sœurs? Car Job était loyal envers son Dieu dans les temps difficiles. Shadrach, Meshach et Abednego étaient loyaux envers son Dieu dans les temps difficiles. Daniel était loyal envers son Dieu dans les temps difficiles. Les apôtres, les saints apôtres de Dieu, ils étaient capables, par la grâce de Dieu, d'être fidèles à leur Dieu dans les temps difficiles. Regardez bien, Actes chapitre 5, verset 28. Le souverain sacrificateur leur dit, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner ce nom-là » C'est-à-dire dans le nom de Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem, vous avez rempli l'église là, vous avez rempli Montréal, le quartier de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement car ils ont vu sa gloire. Est-ce que l'église est là? Ils ne pourraient pas faire autrement, ils ont vu sa gloire. Voilà, à travers les dangers. À travers les menaces de mort qui pesaient sur leur vie, ils restaient loyaux. La loyauté dans le dictionnaire se définit comme étant un engagement indéfectible envers une personne ou une cause. Vous vous rappelez, ce n'est pas ma définition à moi. On sait ça. Eh bien, ces hommes-là que j'ai nommés, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, sont restés fermes. Que vous perdez du job, que vous perdez du travail, quel que soit, que vous perdez du ami, que vous perdez du relation, eh bien, la vérité de la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que l'Église est là? Amen. Si tu ne veux pas être mon ami, c'est correct. Dieu prendra soin de moi. Si même tu ne veux plus être mon père et ma mère parce que je m'attache à mon évangile de grâce, c'est correct. Dieu sera pour moi un père et une mère. Voilà qui sous-tend, en résumé, en filigrane, la réalité de la persévérance chrétienne, de la loyauté chrétienne, frères et sœurs. C'est ce que Daniel avait compris. Quand il ne s'est pas mêlé à ce qu'on savait, j'ai prêché sur ce texte-là déjà. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont compris. Mais qu'est-ce qu'avez-vous vu? C'est que Dieu a traversé les moments difficiles avec eux. Dans la fosse au lion, Dieu était là. Dans la fournaise, Dieu était là. Est-ce que l'Église est là? Les jeunes hommes, les jeunes femmes d'ici. Si celui qui te fait la cour n'accepte pas d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, qu'il s'en aille. Mais attendez. Si elle ne veut pas accepter Jésus-Christ comme son sauveur, qu'elle s'en aille. Bon Dieu, vont l'autre monde pour. Soyez-en sûr. Soyez-en sûr. Et puis si pastora, si diacona, il ne faut pas qu'elle fait ou observer bon Dieu croche, quittez pastora. Bon Dieu, prend soin. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? C'est une question de conviction. Quand on a vu la gloire de Dieu, on ne peut faire autrement, frères et sœurs. S'il y a ici quelqu'un qui n'a pas encore accepté ce Jésus glorieux comme son sauveur personnel, je vous l'offre de sa part. Je vous l'offre. Je vous offre Jésus. Je vous offre Jésus. Si vous n'avez pas encore la vie éternelle, je vous offre Jésus. Jésus peut transformer ta vie de fond en comble. Peut faire de grandes choses dans ta vie. Je te garantis que Jésus va te glorifier. Il va te couvrir de sa robe de gloire, de son vêtement de gloire. La blancheur, la luminosité qui caractérise sa vie, te caractérisera aussi par sa grâce. Il m'a glorifié. Il m'a illuminé. Il a illuminé mes pensées. Moi qui étais un blasphémateur, il m'a illuminé, il m'a éclairé. Aujourd'hui, je me connais bien avec mal. Je peux faire la même chose pour toi. Approche-toi de ce Jésus de gloire. 4, 3, 2, 1. Approche-toi de Jésus. Le compte à rebours a déjà commencé. Qui sait si la tempête, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, ne va pas sonner? Eh bien, si vous changez d'avis, voyez-moi après le culte. voyez n'importe quel leader de l'église après le culte, on priera avec toi et tu remettras ta vie à Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nos tous frères et sœurs.